Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission La Voix est libre, l'émission hebdomadaire de l'association Picasoft, qui s'est donnée pour objectif de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique, héberger des services web respectueux de la vie privée et promouvoir une approche libre, éthique et inclusive et locale du numérique. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio.picasoft.net et cette semaine, on va parler du numérique et de son impact sur la société et sur l'environnement au travers du titre « Numérique, la sobriété pour éviter la gueule de bois ». Alors 2020 est une année charnière pour le numérique, érigée en outil idéal de la lutte contre le coronavirus, permettant le télétravail, apéro Zoom, voire Jitsi Meet pour se donner bonne conscience. Le monde a basculé vers le tout numérique, du matin au soir, certains avec plaisir, d'autres sous la contrainte. Certains ont aimé, d'autres pas. Les infrastructures ont soutenu la charge, mais pour combien de temps et à quel prix ? Ne devrait-on pas encore augmenter les capacités de transfert, de stockage, pour permettre plus de services, plus d'offres et plus de croissance ? 2020, c'est aussi une année électorale qui a vu, enfin, passer au premier plan les enjeux environnementaux. Pour le numérique, ils sont nombreux et documentés. De l'extraction à l'exploitation et au recyclage, tout dans le numérique peut et doit être questionné. Début octobre s'ouvrait un colloque gouvernemental numérique et environnement pour, je cite, « poser les bases d'un numérique durable ». Preuve s'il en fallait qu'il n'y a pas d'informatique magique et que son impact sur l'environnement est loin d'être négligeable comparé à ses apports.
Du coup, on peut se poser la question du numérique et de l'environnement, savoir où est-ce que ça coince. Donc, d'après un rapport d'étude de Green IT en 2019, à l'échelle mondiale, le numérique, sous toutes ses formes, ça représente environ 4,2% de la consommation d'énergie primaire, 22 millions de tonnes de matériaux, 3,8% des émissions de gaz à effet de serre, et ce sont au total 34 milliards d'équipements informatiques, 34 milliards, hein, vraiment. Donc c'est vraiment un chiffre énorme, hors des accessoires. Ces appareils sont principalement situés dans les pays riches. Par exemple, en France, le numérique concentre 12%, bien 12% de la consommation d'énergie. Donc c'est vraiment énorme. Le numérique, comme toutes les technologies, en fait, a un coût et suppose une organisation particulière et il est porteur aussi de choix politiques. Il faut vraiment en être conscient. Parmi ces coûts, certains sont assumés par les entités donc, qui vont mettre en place ces dispositifs et d'autres sont des externalités, des coûts qui seront assumés en fait, par une partie de la société, qu'elle en profite ou non. Donc ces coûts sont assumés dans toutes les étapes de la vie d'un objet informatique, donc de la production, lors de l'utilisation et aussi lors du démantèlement. Parmi ces coûts, il y a les coûts environnementaux. Donc, pour les coûts environnementaux du numérique, on va compter, par exemple, l'épuisement des ressources non renouvelables. Donc, on en a déjà parlé lors d'émissions précédentes, hein, l'extraction, par exemple, de terres rares, l'extraction de matériaux, l'extraction de pétrole pour produire l'électricité, etc. La consommation d'eau, donc, qui est due à la fabrication, à l'extraction, etc. La contribution au réchauffement climatique. La consommation d'énergie primaire, donc, qu'elle soit sous une forme qui est renouvelable ou non, d'ailleurs. Ça va être l'énergie qui va être utilisée par le numérique. L'énergie utilisée par le numérique va être produite à partir d'autres sources. Et pour être transformé en électricité. Et il y a aussi la consommation d'énergie finale, donc la quantité d'énergie sous la forme exploitée, généralement de l'électricité, mais aussi du pétrole, donc, comme on en parlait pour l'extraction minière. Donc parmi les équipements numériques, la plus grosse partie de la consommation va concerner les équipements des utilisateurs finaux, donc ça va être les tablettes, les ordinateurs, les box, les objets connectés, etc. Télévision, console. Ça va concerner les particuliers, mais aussi les entreprises et les administrations. Et il y a, une grosse diversité d'appareils. Hein, donc j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est assez logique finalement que ça concentre une grosse partie de la consommation. Ensuite, il y a la consommation des data centers qui vient. Et enfin, tout ce qui va constituer donc, le cœur du réseau et dans le cadre de l'informatique, donc ça va être principalement le réseau Internet. Donc ça va être les câbles, les routeurs, etc. Il ne faut pas oublier que même si le numérique, Internet, etc., ça paraît être que ce qu'on a entre les mains, c'est bien quelque chose de physique, une infrastructure derrière qui a besoin d'être alimentée et maintenue. Ça ne marche pas par la magie. D'autant plus que le numérique, on le voit, a de plus en plus d'usages et de plus en plus d'équipements sont aptes à utiliser le numérique. Donc ça ne va pas en s'améliorant. Selon les appareils, leur consommation, leur taux d'utilisation, c'est soit la fabrication, soit l'utilisation qui va concentrer les coûts environnementaux. Mais le constat est sans appel. Plus de la moitié de la consommation de chacun des indicateurs est liée aux objets individuels. Alors, comment on en est arrivé là ? Est-ce que les utilisateurs sont tous devenus fous de la technologie ? Est-on prêt à consommer jusqu'à la moelle tous les matériaux rares qui passent ? Alors, il y a un impact qui est très peu clair et visible pour tous les utilisateurs. On a aussi une pression à la performance des usages qui devient une norme, en fait. Et une dette numérique et une obsolescence programmée qui est toujours présente. Donc concernant les réseaux et les data centers, même s'ils sont un peu en retrait, on l'a vu dans la consommation, ils consomment également énormément, hein, près de la moitié de la consommation électrique du numérique. Et du coup, c'est la faute à qui ? Alors principalement, on le voit à l'usage de la vidéo. En 2019, d'après le Shift Project, avant le confinement, les cours et apéros Skype en ligne, etc., 80% de la consommation électrique du réseau était due à l'usage de la vidéo. Et donc, contrairement à une idée très répandue, ce n'était pas seulement du contenu pour adultes, mais aussi de la VOD, du stream, de la vulgarisation scientifique, de la vidéo. La vidéo va bouleverser, en fait, les ordres de grandeur de consommation du numérique. Ainsi, si vous hésitez entre télécharger par exemple 10 heures de film ou l'intégralité de Wikipédia, bah, sachez que vous consommerez la même quantité de données. Donc c'est vraiment vraiment impressionnant. Et pire que ça, en fait, ces plateformes sont désignées pour inciter les utilisateurs à rester et à consommer toujours plus de données, notamment via des fonctionnalités comme l'autoplay et la mise en avant de vidéos qui vont inciter, en fait, les utilisateurs à rester sur la plateforme parce qu'ils ont intérêt à ce que les utilisateurs restent. Et typiquement, une très mauvaise pratique, si vous êtes un créateur de contenu, c'est de mettre des sources écrites dans la description de vos vidéos, puisque les utilisateurs vont quitter le site et les taux de recommandation pour vous vont baisser. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que le Green IT peut nous sauver, Baptiste ?
Oui, donc comme tu le disais, Romain, ce qu'on peut voir à travers cette présentation, c'est que le numérique a un impact environnemental, d'une part parce que c'est le numérique et que ça consomme des terres rares, et d'autre part par le design qu'on en fait, par la manière dont on s'en saisit. Ce qu'on voit bien, par exemple, à travers l'exemple de YouTube, c'est que D'une part, la vidéo, c'est gourmand en énergie, ça transforme l'échelle des consommations. Mais en plus, la manière dont YouTube est designé fait qu'on consomme encore plus et on a encore plus envie de consommer de la vidéo de manière un peu boulimique et de manière systématique. Donc, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est que faire ? Alors, face à ce constat, une fois n'est pas coutume, on va faire notre quiz en début, milieu d'émission. On a trois questions. Pour nos utilisateurs. D'une part, est-ce qu'il faut développer des nouvelles technologies plus performantes et du coup relativement moins consommatrices d'énergie ? Une autre option, ce serait peut-être éventuellement d'adopter le modèle Amish et ne plus utiliser la technologie. Ou enfin, viser la sobriété numérique et avoir des usages raisonnés du numérique. Alors, on va énumérer chacune des options maintenant. Alors, pour la première option, ce qu'on sous-entend, c'est les débats autour de la 5G. Il y a énormément à dire sur le débat, il y a énormément de sujets que ça lève, mais nous, on va uniquement s'y attarder d'un point de vue environnemental et d'un point de vue des discours dessus. Ce qu'on peut vous dire d'un point de vue environnemental, c'est que au mieux, c'est pas fou pour l'environnement, et au pire, c'est dramatique. Parmi les effets bénéfiques, on aurait l'augmentation de la productivité du réseau, c'est-à-dire que pour le transfert d'un octet, consomme moins sur la 4G que sur la 3G et moins sur la 5G que sur la 4G. Pourquoi ? Parce qu'on transfère énormément de données et que, du coup, relativement, le coût de 1 octet diminue. Mais on voit bien que le problème de cet argument, c'est qu'il est très joli et scientifique, c'est-à-dire qu'on peut constater un rapport, mais l'implication « je consomme moins à l'octet, donc je consomme moins au total » ne peut jamais être vérifiée. Car pour faire des économies d'échelle, il faut un changement d'échelle. Autrement dit, c'est parce qu'on consomme énormément d'énergie pour transférer des données que ramener à la donnée, ramener à une donnée, ce coût est faible. Mais on voit bien que dans la dynamique, la quantité générale de transfert de données augmente. Et pire, c'est l'augmentation des capacités du réseau qui augmente, qui amène à leur usage intensif. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet rebond. C'est parce qu'il est peu cher de regarder une vidéo en ligne que je le fais. C'est parce que je regarde une vidéo en ligne que les gens produisent des vidéos en ligne. Et donc, je contribue à augmenter la demande. Je fais diminuer le prix via des économies d'échelle. Et donc, on peut toujours plus regarder des vidéos en ligne. Un deuxième écueil dans la même veine, donc dans la veine du on va produire des nouveaux objets pour éviter de consommer plein d'énergie, c'est celui des objets connectés. Ça mériterait une émission en part entière, eux aussi, mais leur promesse, entre autres, c'est l'économie de ressources. L'utilisation parcimonieuse de celle-ci, par exemple, la gestion du chauffage en fonction de l'occupation des lieux, la gestion de la lumière, tout ça automatisé pour éviter de consommer 3 mégawatts en trop. Couper automatiquement les appareils inutilisés qui n'ont pas à être utilisés et ainsi éviter toute défense superflue. Le problème qu'on voit surtout dans l'objet connecté, c'est qu'en fait, l'inutile, le superflu, c'est souvent l'objet connecté lui-même. Avec des matériaux plastiques, son processeur multi-usage dont on sert en fait uniquement pour une application, sa batterie, parce que souvent il embarque une batterie. Et donc, sur les 35 milliards d'équipements informatiques dont vous parlez, Romain, 35 milliards, je rappelle, hein, c'est 8 fois le nombre d'êtres humains sur la planète. Chaque être humain a à son service, en moyenne, j'ai bien en moyenne, 8 équipements informatiques à lui. Et donc sur ces 35 milliards, il y en a 15 milliards qui sont des objets connectés. Est-ce que ces 15 milliards d'objets connectés ont effectivement un impact, ont effectivement un intérêt sur la réduction de la consommation du numérique? Moi, je pense que non. Et la deuxième question, c'est est-ce que les besoins auxquels répond le numérique sont réellement des besoins? Est-ce que réellement on a besoin d'avoir une machine à café qui, spontanément, quand on rentre chez nous, nous fait un café parce qu'on adore boire du café en rentrant chez nous, ou commence à préparer du café avant notre réveil? Donc, je prends l'exemple de la machine à café, mais il y a énormément d'objets dans les objets connectés qui nous vantent une rationalisation, alors qu'en fait, ils sont eux-mêmes superflus et ils consomment énormément de ressources. Donc ça, c'était pour la première option du quiz. Pour la deuxième option, bon, je crois que la personne qui l'a mentionné mentionnait ça comme un épouvantail. Donc, on ne va pas épiloguer sur la deuxième réponse du quiz. Et pour la dernière option, viser une sobriété numérique et des usages raisonnés, nous, on pense que c'est quelque chose vers lequel il faudrait tendre, à supposer que ce soit possible. Mais en tout cas, c'est effectivement un cap à avoir, et c'est un cap qui est compliqué et qu'on va essayer de développer ensemble.
Tout de suite, la musique, qui est donc cette semaine Mental Disorder de Deathstar, et qui est sous licence Ses Réactions. We'll be right back. De retour sur La Voix est libre, donc nous venons d'écouter Mental Disorder de Devstar. Et du coup, nous retournons sur notre émission sur le numérique et la sobriété va-t-elle nous sauver ? Donc, on avait évoqué les problèmes dus au numérique, savoir si le Green IT peut nous sauver. On avait vu que, par exemple, le chausse-pied connecté n'allait pas nous sauver. Et donc maintenant, on peut s'attarder sur des pistes qui sont peut-être plus sérieuses. Déjà en 2020, on semble se rendre compte qu'il y a vraiment un vrai problème. Cette année s'est tenue la Convention citoyenne pour le climat qui a rendu un certain nombre de dispositions sur le numérique, parmi lesquelles elle a proposé un petit moratoire déjà sur la 5G, privilégier l'éco-conception, notamment l'éco-conception des data centers, réduire l'incitation à l'achat sur les écrans, lutter contre le renouvellement régulier des équipements individuels, puisqu'on a vu la production des appareils avait un impact très fort, allonger la garantie des équipements numériques à 5 ans et développer le réemploi et la réparation. Alors, Baptiste, tu veux intervenir ?
Oui. Alors, tu as évoqué l'éco-conception logicielle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un super logiciel qui va dans la poubelle verte dématérialisée ? Est-ce que c'est le nouveau buzzword de la Silicon Valley pour vendre des nouveaux produits ? Peut-être. Peut-être. Mais on va essayer de s'attarder un peu sur qu'est-ce que c'est l'éco-conception. Donc, de manière générale, déjà, selon l'ADEME, l'éco-conception, c'est une manière de concevoir des produits qui a recours aussi peu que possible aux ressources renouvelables, pardon, en leur préférant l'utilisation de ressources renouvelables, exploitées en respectant le taux de renouvellement. Donc, le taux de renouvellement, c'est la manière avec laquelle la ressource revient naturellement dans la nature, et associée à la valorisation de ces déchets, qui favorise le réemploi, la réparation et le recyclage. Ce que ça veut dire, c'est en fait, dans tout le cycle de vie du produit, ne pas consommer plus que ce qu'on peut récupérer. Alors, avec tout ce qu'on a dit là, c'est quand même hyper mal parti, parce que le numérique, on l'a dit, c'est des terres rares qu'on ne sait pas très bien réutiliser, qu'on sait pas très bien, qu'on doit extraire en utilisant beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de consommation énergétique, et c'est des métaux qu'on retraite de manière générale assez peu. Donc, comment le monde de l'informatique s'empare de ces définitions, et est-ce que c'est fait de manière pertinente ? Donc, dans l'informatique, on lui a donné un petit nom, c'est l'éco-conception des services numériques. Parce qu'il y a bien deux catégories différentes dans l'éco-conception des services numériques. Il y a à la fois faire des logiciels qui utilisent peu d'énergie, qui vont peu recourir à l'Internet mondial pour s'afficher, à l'entièreté de l'Internet mondial pour s'afficher, et d'autre part, le design d'infrastructures logicielles qui sont réutilisables, démontables, qui utilisent peu de ressources, qui sont performantes par rapport à leur utilisation de métaux, etc. etc. Donc, d'après le rapport de Syntec, les produits électroniques devraient être fiables, sûrs, apporter une valeur ajoutée tout au long de leur utilisation, et ils devraient être également éliminés sans affecter l'utilisateur et l'environnement. C'est ça le but de l'éco-conception. Alors, dans ce rapport, ce rapport du Syntec de 2019, bon, c'est un rapport semi-imbitable, comme les ingénieurs qui s'adressent aux politiques aiment bien faire, avec plein d'acronymes et notamment un chapitre définition et principes qui fait 6 pages, plein d'industriels qui viennent se faire mousser parce qu'ils sont plus écolos que leurs voisins. Mais une fois qu'on a passé tout ça, on trouve pas mal de choses intéressantes et notamment les 5 axes de travail de l'éco-conception qui montrent bien les enjeux qu'il y a dans ce numérique. Alors peut-être Romain, tu veux nous en parler ?
Effectivement. Donc premièrement, il y a l'amélioration de la transparence à l'égard des clients. Alors pour ça, chez Picasoft, on a une solution simple. Ça s'appelle libérer les services. Vous en avez déjà sûrement entendu parler dans nos émissions. Un deuxième axe, ce serait la réduction de la consommation d'énergie. Donc ça va passer par une dégradation qui sera imperceptible des services. Diminuer un peu la qualité des images et des vidéos affichées sur son site, mais aussi limiter l'usage inutile de services tiers, tels que le téléchargement de police Google ou l'épisteur qui ne servent pas à grand-chose. La meilleure solution, c'est de supprimer tous les pisteurs. Troisièmement, on aura l'augmentation de la durée de vie des produits. Donc ça, il y a plein de solutions. Hein. Ça passe par des garanties plus longues, mais aussi la mutualisation de certains biens informatiques. On vous parlera la semaine prochaine, normalement, des Common. Donc c'est un petit teaser pour l'émission de la semaine prochaine. L'idée, ce n'est pas d'acheter des biens informatiques, mais bien de louer le matériel aux fabricants et pour qu'ils aient un intérêt direct en fait, à ce que leur produit dure le plus longtemps. Un autre point, c'est la dette numérique associée à des logiciels qui sont toujours plus gourmands. Quatrièmement, on a la suppression des substances dangereuses. Donc ça, c'est un enjeu purement industriel hein, pour le coup. Et on ne va peut-être pas développer. Et le cinquième axe, du coup, c'est la réduction des impacts de la fin de vie du produit. Donc là, c'est l'idée qu'un produit informatique, même si on allonge la durée de vie, disons, à 5-10 ans, à un moment, il ne va plus fonctionner et il va falloir s'en séparer. Et du coup, il faut que le matériel soit démontable du coup, que le désassemblage soit traité correctement. Et du coup, il faut aussi pouvoir concevoir les produits dans le but d'être démontés, recyclés, etc. Du coup, à l'échelle des utilisateurs, cela passe par l'utilisation privilégiée de produits reconditionnés plutôt que neufs, l'utilisation de matériel démontable dont on peut remplacer facilement les composants. Pour l'instant, pour les ordinateurs de bureau, ça se fait bien. Par contre, pour les PC portables et pour les smartphones, il faut choisir avec soin son matériel à l'achat. Donc, il existe déjà plusieurs solutions.
Oui, donc c'est ce dont on veut parler dans la fin d'émission peut-être, c'est voir comment le logiciel libre s'empare en fait de tous ces questionnements. Et nous, ce qu'on va développer, c'est pourquoi en réponse à ça, même si la réponse est imparfaite, le logiciel libre, ça semble s'imposer quand même parmi tout ça. Déjà, moi, un point sur lequel j'aimerais bien revenir par rapport à ça, c'est toute la question de la dette numérique, en fait. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'appareils qui sont trop vieux et qu'on ne peut plus utiliser, non pas parce qu'ils ne marchent plus, mais parce que l'ensemble des systèmes d'exploitation qu'on va vouloir utiliser, ils sont obsolètes et surtout, les fabricants ne les mettent plus à disposition. On peut penser notamment à Bill Gates qui en 80 disait on n'aura jamais... Personne n'aura jamais besoin de plus de 640 kilooctets de mémoire. Aujourd'hui, un ordinateur, s'il a 640 kilooctets de mémoire, on ne fait rien tourner dessus. Rien du tout. Et pourquoi on ne fait rien tourner dessus? Parce que tous les systèmes d'exploitation qu'on pouvait faire tourner dessus à l'époque, ils sont disponibles nulle part. Personne ne les a rendus libres et personne ne propose d'installer quoi que ce soit dessus. Et donc, l'intérêt d'un logiciel libre, c'est que vous pouvez aller rechercher des vieilles versions et les faire tourner sur des appareils qui sont techniquement obsolètes, mais qui pourraient quand même remplir le besoin qu'on a envie de remplir avec. Par exemple, faire du traitement de texte. On n'a pas besoin d'avoir une bête de course de 2000 ans pour faire du traitement de texte. Dans les années 2000, on savait déjà faire du traitement de texte, et même avant. Et pourtant, vous prenez un PC qui a 20 ans, vous êtes incapable d'avoir un système d'exploitation qui soit efficace, en tout cas dans le domaine du logiciel propriétaire.
Et au-delà du logiciel, la philosophie derrière le logiciel libre, au niveau du matériel, elle peut aussi aider, puisque, on l'a dit, hein, on a du matériel aujourd'hui, comme des smartphones, tout ça, qu'on ne peut pas réparer. Donc eux, c'est vraiment, au niveau de la conception, c'est pas facile de réparer. Souvent, on ne peut pas faire grand-chose. Mais pour d'autres matériels numériques, donc, on peut penser à certains objets connectés, notamment... pour la réparation de ces matériels-là, en fait, le fait d'avoir du matériel libre, savoir comment il fonctionne, permet de comprendre les pannes, comprendre comment réparer, etc.
Ouais, sur l'aspect réparabilité, c'est aussi un aspect important. Alors, dans le domaine pas libre, mais qui essaie de tendre vers une démontabilité, une compatibilité entre des composants, des specs assez suffisamment défini pour qu'on puisse démonter des ordinateurs, des téléphones, etc. C'est quelque chose qui se met en place. Le problème, c'est qu'actuellement, souvent, c'est quand même des solutions assez chères. On pense notamment au Fairphone, qui est un téléphone qui doit coûter facilement 400-500 euros, mais qui est déjà développé dans cette philosophie de si vous avez cassé votre micro, si vous avez cassé votre puce, votre calculateur, etc., vous pouvez la retirer, c'est un petit compartiment à elle-même, vous pouvez la retirer et en mettre une autre à la place. Ça, c'est, même si en eux-mêmes, les composants chez eux ne sont pas libres. Ça permet à n'importe qui ce qui n'est pas fait actuellement, hein, mais ça peut mener à des utilisateurs qui développent eux-mêmes des pièces de rechange ou qui respectent les fonctionnalités qu'on leur demande d'avoir. Et donc, toujours pareil, ce qu'on voit, c'est le fait de partager les protocoles d'échange entre les différentes pièces, le fait de rendre libre et accessible à tous, ça permet aux gens de s'emparer des choses et d'augmenter la durée de vie des appareils. Un autre point qui me paraissait vachement important que tu as dit aussi, et c'est pareil, là on retrouve directement la philosophie libre, c'est Google, actuellement, il propose souvent des cours gratuits de développement qui vous permettent de développer très rapidement des sites web pour tous vos usages. Alors c'est génial, sur le principe ça a l'air trop bien, c'est des formations gratuites et tout. Mais leur objectif, c'est que vous utilisiez tous leurs services et que vous alliez, quand vous faites un site, en fait, quand vous faites un site en ayant suivi les cours de Google, ce que vous faites, c'est créer un site qui va faire plein d'appels à un site Google. Donc, quand quelqu'un va faire une requête sur votre site, il va demander 2-3 éléments à votre site qui sont globalement le texte, et c'est à peu près tout. Et après, il va aller faire des requêtes à des serveurs partout dans le monde pour aller récupérer les polices d'affichage, donc les polices d'affichage, la forme du texte, pour aller récupérer des librairies CSS, pour aller récupérer des trackers, chose très importante qu'on vous apprend dans un site Google, c'est à mettre des trackers pour bien savoir comment les gens sont venus sur votre site, comment est-ce qu'ils sont arrivés là, est-ce qu'ils sont restés longtemps, où est-ce qu'ils ont cliqué, où est-ce qu'ils ont mis leur souris, qu'est-ce qu'ils ont regardé. Tout ça, c'est plein d'informations que Google vous incite à récupérer. Mais à chaque fois qu'il va y avoir une requête sur un site Google, c'est la mobilisation du réseau, c'est du calcul sur votre machine, ça contribue à abîmer les matériels, ça contribue à leur utilisation, et c'est pas forcément nécessaire, en fait. L'intérêt que Google a, c'est surtout de récupérer les données et de faire énormément de big data. Mais en fait, à votre échelle, vous récupérez aussi des données, mais que vous auriez pu avoir autrement. Et vous passez toujours par des services Google, et vous passez aussi souvent par des services Facebook, par des services offerts par tous les GAFAM. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils sont ils sont pas à l'endroit de votre site, mais ils sont partout sur le monde. Votre requête, elle va passer le câble sous l'Atlantique, elle va passer à plein d'endroits, aller chercher des requêtes vraiment partout. Et ça, c'est pas de la sobriété numérique. C'est pas de la sobriété numérique, en tout cas. Je sais pas ce que c'est.
Finalement, quand on parlait de dégradation imperceptible des services, c'est ce genre de dégradation, c'est ce genre de choses qu'on voulait éviter, c'est qu'on fasse des appels qui sont inutiles finalement pour l'utilisateur final, qui sont seulement utiles pour les GAFAM, pour finalement leur modèle économique.
Pour les GAFAM, on peut citer quand même une bonne initiative qui a été prise pendant le confinement, c'est l'initiative de YouTube de diminuer la qualité de base de vos vidéos pour réduire le flux. Voilà, point positif de l'histoire quand même. Le point négatif étant que, alors, logiciel libre merveilleux s'il en est, il existe un add-on Wikipédia qui vous permet, quoi qu'il arrive, de mettre la qualité maximale d'une vidéo YouTube pour contrebalancer cette décision prise. Donc on voit que le fait de faire un logiciel libre, c'est pas toujours associé non plus.
Mais finalement, l'utilisateur a toujours le choix de ne pas installer cet add-on, hein, puisqu'il est libre, c'est pas intégré dans Wikipédia ou etc. Il peut faire comme il veut. Et voilà.
Ouais, bien sûr. C'est ça qu'on défend dans le logiciel libre, c'est toujours se poser la question de est-ce que j'en ai besoin et qui le fait, pourquoi. Qu'est-ce que c'est le modèle économique et là, déjà, la question est-ce que j'en ai besoin. Je pense que la réponse est... La question est vite répondue, comme dirait l'autre. J'en ai pas besoin d'avoir une vidéo en 8K. En 8K. Voilà. Je sais pas si tu as encore des choses à dire sur le sujet, Romain.
Non, moi, je n'ai plus grand-chose à dire. En tout cas, c'était super intéressant. Hein. Merci pour avoir préparé cette émission. Et donc merci à toi Baptiste. Et du coup vous pouvez retrouver cette émission sur radio.picassoft.net avec notamment les liens vers les sources et aussi le plan général de l'émission. Avant la fin, j'ai vu que sur le Peertube de Monsieur Bidouille, dont le lien sera en description du podcast. Il avait sorti une vidéo sur un thème connexe, qui est donc la sobriété sur Internet. Donc c'est vraiment axé Internet pour le coup. Et donc la sobriété et l'impact environnemental d'Internet. Voilà. Du coup, merci Baptiste et à la prochaine.